Alors ce matin, je vous propose de redécouvrir l'histoire d'un groupe de personnes. Ce sont des personnes d'arrière-plan complètement différents. Donc, parmi ces personnes, on a des pêcheurs, au sens poisson du terme. Parmi ces pêcheurs, on en a deux dont on sait en fait que c'est des fils du tonnerre. En plus de ça, on a un nationaliste. Donc lui, il est contre le gouvernement en place. Et avec ce nationaliste, on a un autre qui est un péager qui, lui, travaille pour le gouvernement en place. Donc vous pouvez imaginer Jean-Marie Le Pen, Manuel Valls, c'est la même équipe, ça vous donne une image. Donc voilà, une équipe complètement hétérogène de personnes qui, en plus, doivent collaborer. Probablement pas celle que vous aurez choisie, n'est-ce pas? Pourtant, ces personnes ont été soigneusement sélectionnées par leur maître. Et par la suite, elles ont cheminé avec ce même maître 3 années durant, étant persuadées qu'il serait là tout le temps avec eux. Hélas, il y a quelques jours de cela, le drame s'est produit. Leur maître, leur seul maître, leur a été enlevé. Ce maître pour qui pourtant ils étaient prêts à mourir, allant jusqu'à affirmer que jamais, au grand jamais, ils ne l'abandonneraient. Ça n'a pas été le cas, il en a été autrement. Le maître a été trahi par ses propres élèves, qui ont pris la fuite, se sont dispersés lorsqu'on est venu l'arrêter. Les élèves ont appris par la suite que certains ont même vu leur maître torturé, littéralement massacré, puis mis à mort. Et voici que 3 jours plus tard, plusieurs personnes viennent leur apprendre que leur maître, celui-là qu'ils ont vu mort, est vivant et qu'il veut les rencontrer. Il leur donne un rendez-vous sur une montagne. Ces personnes se mettent en route, tant bien que mal, mais imaginez-vous leurs pensées. Imaginez-vous le moral de ces personnes-là. D'un côté, on a ceux qui prétendent avoir vu le maître, et de l'autre, on a les autres personnes qui, eux, ne l'ont pas vu, parmi lesquelles on a qui l'ont trahi. Perplexité, sentiment de honte, culpabilité, doute, joie, enthousiasme. Et quel est l'objet de ce rendez-vous si important? C'est ce que nous allons voir ce matin. Maintenant, je vous propose de rejoindre ces personnes-là. Nous allons ouvrir nos Bibles, nous le lirons dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. J'ai affiché le texte au cas où, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Matthieu 28, versets 16 à 20, je vais lire. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, Daniel a exposé 2 mandats. D'un côté, on avait le mandat créationnel et de l'autre, le mandat relationnel. Et ce matin, je vous propose de poursuivre avec un 3e mandat, qui est le mandat missionnaire, la grande mission. Dans un premier temps, nous allons voir à qui s'adresse le texte, à qui il est destiné. Nous verrons ensuite quel est le socle sur lequel Jésus envoie ses disciples, quel est le fondement de cette grande mission. Enfin, on verra un peu en quoi consiste concrètement cette mission. Et pour terminer, nous parlerons d'un feu, ce feu-là qui vient alimenter la mission qu'il leur demande. Donc pour commencer, à qui ce texte s'adresse-t-il ? Donc, si on regarde le texte qu'on a en face de nous, de toute évidence, la réponse est claire. Jésus s'adresse aux 11 disciples. Mais est-ce que c'est là les seules personnes, les seuls destinataires de ce texte? C'est ce qu'on va en voir. Pour cela, on va faire un peu de mathématiques. Okay, vous êtes d'accord? Non? De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est un peu trop tard. Alors voilà. On va faire ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Ok ? C'est très simple. Enfin, le raisonnement par là-dessus, je l'explique, consiste à démontrer une vérité à partir d'une proposition qui est absurde, quoi. Donc la proposition qui marche, c'est de dire que ce texte ne s'adresse pas qu'aux disciples. Et donc le postulat que je vais faire maintenant, qui est le postulat du texte, est le suivant. Cet appel est spécifique aux disciples, aux 11 disciples. Okay ? Alors, ce postulat implique qu'aujourd'hui, 2000 ans après, les disciples étant morts, la mission devait avoir cessé au 1er siècle. Donc si ce texte était réservé qu'aux 11, la mission devrait avoir cessé depuis le 1er siècle, ce qui n'est pas le cas. Alors voilà une première raison qui m'amène à penser que ce ne sont pas que les 11 qui sont concernés ici. Et le texte lui-même va dans ce sens. Jésus affirme que la validité de cette grande mission est conditionnée par son retour. Autrement dit, la mission durera jusqu'au retour de Christ. Et comme Jésus n'est pas revenu, eh bien, la mission continue. Un dernier point consiste à dire que Matthieu, qui est un apôtre, qui plus est péager, j'en ai parlé un peu au début, ne fait ici aucune mention du mot apôtre dans ce texte. Il emploie précisément le mot disciple. Et quand on sait que c'est le Saint-Esprit qui insuffle ces paroles, il est donc évident que dans ce texte, Dieu ne s'adresse pas qu'aux apôtres en particulier, mais à l'ensemble des disciples. Donc les 11 disciples ici représentent l'ensemble des disciples de Jésus-Christ, les croyants de tous les temps, l'Église universelle, qui a vraisemblablement un rôle super important à jouer. Sous l'Ancienne Alliance, le peuple d'Israël était le bras missionnaire de Dieu pour les nations. Et maintenant, c'est à l'Église que Dieu donne cette mission. Éphésiens 3, versets 8 à 10. « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. » Oui, l'Église est bien cette communauté-là, relationnelle, au service et à la gloire de Dieu, par lequel Dieu veut montrer, veut parler aux nations. Alors, en tant qu'Église locale, donc l'Église chrétienne évangélique de Grenoble, nous sommes une entité de l'Église universelle. Donc nous, Église chrétienne évangélique, nous sommes pleinement concernés par ce texte, dès lors que nous nous définissons disciples de Christ. Donc voilà, nous savons maintenant à qui ce texte s'adresse. C'est, je rappelle, à l'ensemble des disciples de tous les temps, et en particulier, nous, l'Église locale. Et j'ai une question pour vous maintenant. Es-tu un disciple de Christ ? Es-tu un disciple de Christ ? Le texte ne parle que de ça. Et il est important que nous définissons ce texte, ce que ça veut dire, ce mot veut dire, disciple de Christ. J'ai posé la question pour vous aux explorateurs. Donc les explorateurs, c'est l'école de dimanche, la classe d'école de dimanche des 6 à 8 ans. Et voici ce qu'ils m'ont répondu. Un disciple, c'est quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus et qui le suit. J'avais rien fait encore, c'était le début de la leçon. C'est déjà pas mal comme réponse. Pourtant, elle n'est pas tout à fait claire encore. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus ? On le suit où ? Et nous allons partir de cette définition-là, et tout au long de cet enseignement, nous allons l'enrichir. Mais avant, je vais vous donner quand même quelques éléments qu'on trouve dans le livre de Matthieu, duquel est tiré ce texte. Donc, dans Matthieu 4, le verset 19, Jésus s'adresse à Simon et à André. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Un disciple, c'est quelqu'un qui est appelé par Christ lui-même. Voici une première caractéristique du disciple. Tout à l'heure, Benjamin l'a lu, Matthieu 10, verset 39. « Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Le disciple renonce à sa vie pour Christ. Le renoncement consiste à se dépouiller de soi-même pour suivre Christ, pour placer Christ en premier. Mais sachez-le tous, renoncer à sa vie peut nous conduire au rejet. C'est ce que l'on retrouve dans le livre « Suis-moi » que nous sommes en train de lire. Dans l'histoire d'Aziza, il est enfin, dans les premiers chapitres. Mais renoncer à sa vie peut aussi nous conduire à la mort. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, clairement, où être disciple est passible de la peine capitale dans certains pays. Voilà deux caractéristiques du disciple. En résumé, nous avons fini pour cette première partie. Nous avons vu que ce texte s'adresse à l'ensemble des disciples, donc l'Église de tous les temps, jusqu'à présent, nous compris. Et nous savons ce que c'est qu'un disciple. Du moins, on a quelques éléments pour en juger. Je vous repose la question une nouvelle fois. Est-ce que tu es un disciple de Christ ? On va rejoindre les onze disciples qui sont enfin arrivés sur la montagne. Et là, ils aperçoivent leur maître, celui-là qui pourtant était mort. Mais il est juste là, en face d'eux. Il est revenu à la vie. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, mais dans ce texte-là, que je veux réafficher, on a là toute la sémantique du christianisme. C'est là que le christianisme puise toute sa puissance au travers du triomphe et de la suprématie de Jésus-Christ. À l'instar des événements relatés dans le texte, nous sommes aussi aujourd'hui, quelques jours après Pâques, excusez-moi. Jésus-Christ est mort il y a quelques semaines, on a célébré la Pâque. Daniel a parlé de l'irruption du péché dans le monde dimanche dernier. Et voici le diagnostic que l'apôtre Paul fait dans la lettre aux Romains. Romains 3, 10, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. La conséquence est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Chère Église, Jésus est mort à notre place pour nos mensonges, notre culpabilité, notre incapacité à croire en lui, notre incapacité à lui obéir et notre manque d'amour les uns les autres. Mais sa mort n'était pas une fin en soi. Au contraire, elle a marqué le début d'une nouvelle ère. Les disciples de Christ sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la foi qui est en Jésus-Christ. Et Jésus est revenu à la vie. Donc sur cette montagne, les disciples ont devant eux un fait inexplicable. Quelque chose qui dépasse l'entendement. Le triomphe et la suprématie de Jésus-Christ sur la mort, ils l'ont juste en face d'eux, ils sont témoins de la puissance de Dieu. Comprenez bien une chose, si Christ n'est pas ressuscité, mon enseignement est vain. Et votre foi, ta foi, est vaine aussi. Alors, arrête-toi et tu peux sortir de la salle. Car l'appel de Christ qui va suivre découle pleinement du triomphe de Jésus sur le péché et sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront avec Jésus-Christ. Que tu le veuilles ou pas ce matin, par sa résurrection, Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est de ça dont il est question ici. Jésus est en train de montrer à ses disciples qu'ils n'ont plus à se cacher, qu'ils ne peuvent plus juste se permettre d'être là, à attendre, ne rien faire. parce qu'il a triomphé. Il leur lance un appel à l'obéissance. Alors, il y a un missionnaire en Afrique du Nord. Un jour, il sort de sa maison, il aperçoit son fils qui joue sous un arbre. Et là, il voit son fils, il crie « Marc, allonge-toi sur le sol, maintenant rampe vers moi, lève-toi et cours, viens, rejoins-moi. » Surprenant, n'est-ce pas? Voilà ce qui s'est vraiment passé. Le papa, il est sorti de sa maison, il a vu son fils sous l'arbre et il a vu un serpent qui était juste à côté, sous la tête de l'enfant. Et voilà les paroles que je veux répéter. Marc, allonge-toi au sol. Rampe, viens vers moi. Maintenant, lève-toi et cours, viens. Maintenant, réfléchissons un instant. Imaginez Marc, lorsque son père lui parle, qu'il dise « Pourquoi ?» Est-ce que vous comprenez l'urgence? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe, l'urgence qu'il y a là? Il y a un risque de mort, clairement. Et il en est de même dans ce texte. Jésus-Christ est ressuscité et il envoie ses disciples. Que choisis-tu de croire ce matin? Est-ce que tu crois au sacrifice de Christ? La vie est courte, l'éternité n'a pas de fin. Notre choix aujourd'hui conditionne où est-ce que nous allons passer notre éternité. Et quel impact la mort et la résurrection de Jésus-Christ ont-elles dans ta vie au quotidien? Le mandat missionnaire puise toute sa puissance au travers du triomphe et de la suprématie de Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question là, dans ce texte. Et c'est en partant de là que Jésus va s'adresser maintenant, donner l'ordre missionnaire à ses disciples. Nous sommes dans une étape historique, cruciale de l'histoire du salut de l'humanité. Aujourd'hui, l'Église chrétienne évangélique existe, si elle existe, si vous êtes là ce matin, c'est parce que certains ont décidé d'obéir à ce commandement et ont reçu une vocation particulière de la part de Dieu. Je vais peut-être vous choquer, mais nous ne sommes pas là pour simplement nous faire du bien, être des consommateurs. Dieu nous appelle à faire des disciples. Dieu appelle l'Église à se lever et à former les disciples. C'est notre avant-dernier point. Ah, j'ai oublié. Où Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » La plupart du temps, ce texte n'est utilisé que pour parler d'évangélisation, ce qui n'est pas tout à fait juste. Jésus ne met nullement l'accent sur une méthode, mais bien sur un objectif final, qui est un disciple. L'appel est centré sur les personnes. Voilà une illustration où on voit l'ordre que Jésus donne à ses disciples qui est d'aller et le résultat qui est le disciple. De même, nous ne pouvons pas nous cloisonner avec des moyens tels que l'évangélisation seule ou l'édification seule et prétendre qu'on obéit pleinement à ce texte. L'édification et l'évangélisation font déjà partie du package de cet appel. Et bien que Jésus ne donne pas une méthode particulière, des méthodes particulières, il donne au moins la ligne directrice à suivre. Enseignez-leur à observer, à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. On a l'ordre, on a le résultat, on a la ligne directrice qui est d'enseigner à observer, à mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. L'enseignement est capital. Pour autant, il y a quelque chose de fondamental à considérer. Vous et moi, clairement, nous sommes incapables de transformer le cœur d'une personne. Par contre, Dieu Dieu seul peut le faire. Hébreux 4, verset 12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Dieu seul est capable d'amener une personne à la nouvelle naissance. Rappelez-vous, dans Matthieu 4, c'est Jésus qui appelle ses disciples et il le fait par sa parole. La nouvelle naissance dont je viens de parler est un miracle que Dieu seul opère dans les cœurs. Ce miracle souligne la toute-puissance de Dieu à prendre un cœur de pierre, donc vous imaginez caillou, et à le transformer en un cœur de chair. C'est Dieu qui, à partir des eaux, vous prenez des eaux desséchées, de simples eaux, Dieu crée un corps nouveau auquel il insuffle la vie. Et c'est là toute la symbolique du baptême à laquelle tout disciple de Christ qui a accepté Jésus comme sauveur et Seigneur doit un jour ou l'autre se soumettre et obéir. Pour vous en convaincre, je vous invite à lire les Actes des Apôtres. Et vous constaterez la promptitude avec laquelle les disciples obéissaient à ce commandement. Alors, on parle d'enseignement. Jésus appelle ses disciples à enseigner ce qu'il a lui-même enseigné. Et cela implique un enseignement fidèle. La prédication de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour convaincre, pour instruire, pour corriger. Et ce verset-là de 2 Timothée 3 ne s'applique que dans la mesure où nous sommes fidèles et que nous restituons pleinement la pensée du texte. L'Église doit enseigner, nous, l'Église c'est les personnes, ok ? C'est pas les locaux, c'est nous. L'Église doit enseigner en conservant l'exactitude du texte. Et le premier point à retenir sur l'enseignement, qui nous concerne tous, c'est qu'on doit être fidèle à ce texte. Il y a un deuxième point que nous allons maintenant voir. J'ai mis une image. Fruits et légumes. Ça vous fait penser à quoi ? Dites-le plus fort, j'ai pas entendu. Voilà, manger 5 fruits et légumes par jour, manger équilibré. C'est ça, hein ? C'est ça le slogan. Dans ce texte, malheureusement, Dieu ne veut pas que l'Église offre un enseignement équilibré. Je m'explique. Pour faire des disciples, l'Église doit offrir un enseignement complet. Pas équilibré, mais complet. Il y a une très grosse différence. Paul, quand il s'adresse aux anciens d'Éphèse, voici ce qu'il leur dit. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. » Enseignez-leur tout, tout ce que je vous ai prescrit. À notre définition du mot de tout à l'heure, nous pouvons ajouter qu'un disciple doit enseigner fidèlement tout ce que Jésus a appris, mais aussi un enseignement complet. Et aujourd'hui, notre enseignement, on le tire de la Bible. Je précise au cas où. Alors, en résumé, comment faire des disciples ? Il faut déjà être soi-même un disciple, s'appuyer sur l'autorité de Christ qu'on vient de voir, sa suprématie sur toute chose, et garder l'attention sur les personnes et pas sur les moyens, mais en suivant la ligne directrice que Jésus a donnée, qui est d'enseigner fidèlement tout ce qu'il a prescrit. Alors, maintenant, je vous propose quelques applications concrètes. Et pour être cohérent, on va partir du modèle de Christ lui-même. Okay. Comment Jésus a fait des disciples ? Je reprécise que les moyens ne constitue pas l'objectif. L'ordre consiste à aller et le résultat, c'est un disciple. Alors, dans le livre de Matthieu, Jésus introduit son ministère avec Matthieu 4, où il dit à Simon André, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Et il conclut ici dans Matthieu 28, par ce nouveau commandement où il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Il donne la mission à ses disciples d'être eux-mêmes des faiseurs de disciples. Et pendant tout ce temps, 3 années sont écoulées, durant lesquelles Jésus a annoncé la parole à ses disciples. Ils ont pris des temps privilégiés avec lui. Il les a corrigés. Benjamin nous l'a lu tout à l'heure. Et eux-mêmes, ils ont été déjà amenés, Jésus a envoyé les 70 pour aller déjà, pour qu'ils découvrent les prémices de cette grande mission qui les envoie. Ils ont été formés pendant 3 ans. Voilà le modèle que Jésus nous a donné. Et après, ça reste un moyen. N'oublions pas, l'objectif, c'est un disciple, les moyens, on a plusieurs. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais ce modèle fonctionne depuis près de 2015 années. C'est la raison d'être, c'est la raison pour laquelle vous et moi, nous sommes ici, là, maintenant. Parce que ce modèle, il fonctionne. Dans l'Église, actuellement, nous avons plusieurs moyens d'atteindre cet objectif, ce résultat. On a des structures, on a des outils, mais on a d'abord des personnes, des disciples. Vous et moi, si on n'a pas de personnes, on n'a pas de structure, on n'a rien. Mais on a d'abord besoin de disciples. Je parlais de l'école de dimanche, que je connais bien. L'école de dimanche est une structure où nous enseignons les enfants, nous prions avec eux, nous avons des temps privilégiés avec eux, et même des temps ludiques. Par exemple, faire une sortie au cinéma, tiens, Cendrillon par exemple, ça peut être pas mal. Prendre du temps avec les enfants. Après, ça ne concerne que les filles. Les garçons, il faut trouver autre chose. La pêche, ils sont super au taquet. Mais voilà, c'est un tout. Ce que je vous fais réaliser, c'est que c'est un tout. Ce n'est pas juste de l'enseignement. C'est un accompagnement. Et c'est coûteux. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Barbara Rocher a été monitrice d'école le dimanche pendant 7 ans. 7 années durant, elle a obéi et a participé à faire des disciples. Qu'en est-il pour toi? Est-ce que tu obéis à ce commandement-là? On a également les groupes de croissance. Un groupe de croissance est une structure de redevabilité entre 2 ou 3 personnes où nous sommes redevables sur notre vie de piété. L'autre personne sait ce que nous sommes, ce que nous faisons tous les jours. Il peut nous poser n'importe quelle question sur notre vie. Mais aussi, nous sommes redevables sur notre témoignage. Voilà un deuxième moyen, et je sais qu'au groupe de jeunes, il y en a quelques-uns qui le font, dans l'Église aussi. Voilà un autre exemple concret où nous pouvons grandir ensemble pour faire des disciples. Et dans le cas spécifique du groupe de jeunes, Raphaël a formé quelques-uns d'entre nous avec un outil de discipula. Et je vais appeler Lisa Lalomia à s'approcher pour nous partager comment elle a répondu, enfin comment est-ce qu'elle vit en fait cet appel que Dieu donne. Lisa, à toi.
Bonjour à tous. Bon, alors je suis venue avec ma petite disciple. Donc, quand on m'a proposé de faire une formation de discipula, j'ai tout de suite pensé à Alicia, parce que je la voyais grandir dans l'église et je savais qu'on pourrait très bien s'entendre et apprendre l'une de l'autre. Donc, ça fait maintenant à peu près 6 mois qu'on a commencé. Donc, on se voit à peu près toutes les semaines. Bon, c'est pas facile de se caler un moment toutes les semaines. C'est vrai que ça prend du temps. Et comme disait Rolly, c'est un certain sacrifice. Mais bon, quand on en voit les résultats, ça ne fait qu'encourager. Donc on lit et on étudie la Bible ensemble, avec pour but de nous former à devenir des pêcheurs d'hommes, comme Paul a dit aux chrétiens de Philippe en Philippiens 4:9. Donc je le lis. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Avec nous. Donc cela passe par des défis qu'on se lance avec pour seul but, c'est que l'évangile se multiplie de par le monde. Et ça passe en priorité par notre lieu de vie, nos travails, et même par nos loisirs. Donc voilà, je vais laisser la parole à Alicia qui vous dira un peu ce qu'elle a pensé des temps.
Alors moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris, tout comme j'espère ça a beaucoup appris à Lisa. Déjà au niveau relationnel, parce qu'on a vraiment appris à se connaître. Ah, on a parlé de nos vies, on s'est conseillé, on a partagé de nous personnellement. Et on est devenus très proches. Donc je trouve ça génial parce que quel que soit l'âge que l'on a, on peut avoir des relations comme ça. Et au niveau biblique, on a pu... vraiment partager sur notre façon de voir les textes, notre façon d'interpréter, quelle était la meilleure façon de voir. Et après, ça nous a fait nous poser des questions, ensuite aller voir des anciens ou quoi, parce qu'on avait une question sur laquelle on n'arrivait pas à départager. Vraiment grandir et revoir des textes qu'on connaît très bien, mais changer complètement de vision, aller plus en profondeur. Et je trouve ça génial parce qu'on peut être proche comme ça de personnes qui sont peut-être plus âgées, plus jeunes ou quoi. Et le discipulat, c'est génial.
Je vais juste terminer par un petit extrait du bouquin « Suis-moi ». Rolly en a parlé tout à l'heure. Qu'on lit, on est une bonne partie de l'Église à l'avoir lu, je pense. En tout cas, je vous encourage à le lire. Alors que nous nous mettons tous en route pour suivre le Christ, il transforme nos pensées, nos désirs, notre volonté, nos relations et notre raison de vivre. Chaque disciple de Jésus existe pour faire des disciples de Jésus là où il se trouve et parmi toutes les ethnies de la planète. Il n'existe pas de spectateurs parmi eux, nous sommes tous nés pour nous multiplier. Voilà.
Merci à Lisa et Alicia. Ce témoignage. À quoi ça vous fait penser tout ça? Est-ce que vous réalisez l'importance de cet appel que Dieu nous lance à chacun d'entre nous? Nous sommes nombreux, enfin, je pense que Philippe, Ricardo et moi-même ne serons pas là s'il n'y en a pas quelques-uns qui se sont levés, qui nous ont pris. Ça faisait mal des fois, hein. Je suis clair. Mais ils nous ont formés. Et imaginez-vous les années que vous allez, enfin, les années de souffrance que vous épargnez à des plus jeunes en les prenant, en les formant. Je suis jeune, j'ai besoin d'être formé. Et l'Église nous a donné des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer. Que tu sois jeune, que tu sois plus grand, je t'invite ce matin, à te mettre en travail et à faire des disciples. J'ai parlé de groupes de croissance, on a parlé de discipulat, j'ai parlé d'école du dimanche aussi. Tout le monde peut le faire. On arrive à la fin, où Jésus dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus promet d'être là. Église chrétienne évangélique de Grenoble, Jésus est avec nous tous les jours, pour nous aider à obéir et nous assister face à ce commandement qu'il nous donne. Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est Jésus qui le dit dans Matthieu 16. Je bâtirai mon Église. C'est Christ lui-même qui bâtit son Église. Je répète, on ne fait pas des disciples, c'est Dieu qui fait des disciples. Mais Dieu nous utilise, nous, du moment où on est disposé à le servir. Nous avons vu que Dieu nous appelle à nous positionner par rapport à ce texte, par rapport à ce monde missionnaire. Et si nous ne sommes pas disciples, ben, face à la résurrection de Christ, il y a un choix à faire. Croire ou ne pas croire, sachant que ce texte nous dit clairement que Jésus reviendra. Et pour moi, c'est une super espérance. Aujourd'hui, j'ai la conviction que Christ reviendra pour chercher ses disciples. Et moi, ça m'encourage au quotidien. Pour les disciples de l'Église, je pense que nous devons nous assurer à faire en sorte que faire des disciples constitue le cœur de notre vie d'Église. Car si nous ne faisons pas des disciples, nous passons à côté de ce commandement de Jésus. Jésus nous appelle à l'action, mais au final, lui seul convainc. Et c'est lui qui transmet des vocations. C'est Dieu lui-même qui a appelé Evelyne Félix. Evelyne Félix, vous connaissez ? Très bien. Il l'a menée ici, où elle a été monitrice, demandé à Jean-Marc. Et Dieu lui a mis dans son cœur, a créé en elle, enfin, un cœur pour le Tchad. C'est Dieu qui l'a fait, c'est pas nous. Et elle est partie. De même, Dieu a appelé Christelle Avogadro du monde, elle a menée ici. Et dans l'église, avec plein de choses qu'elle a fait à côté. Et par la suite, Dieu a mis en Christelle un fardeau pour les musulmans. Vous ne pouvez pas le faire, mais Dieu peut le faire. Et enfin, je ne sais pas si vous réalisez, mais nous sommes au final qu'un incubateur de disciples. Un incubateur, ok ? Ou une structure dans laquelle les disciples arrivent, on les forme, et ensuite, Dieu les envoie, parce que l'ordre concerne les nations. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour les nations. Si nous sommes là, parce que d'autres sont venus ici, et que Dieu nous appelle aussi à en former d'autres qui pourront peut-être partir, mais d'autres aussi qui resteront. On a besoin de responsables. Moi, je rêve de voir, enfin, dans 5, 10, 15, 20 ans, de voir une petite Amy, responsable du groupe de jeunes. Je rêve de voir Clément un jour. Je rêve de voir ces filles-là comme étant des femmes qui sont, enfin, des disciples de Christ, qui tiennent la route. Des femmes qui savent tenir leur foyer. Je rêve de voir les gars aussi se lever. Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? L'Église a un rôle super important à jouer et nous sommes appelés à être des missionnaires, peut-être pas tous, hein, certains, Christelle, Evelyne, nous ne sommes pas tous appelés, mais nous sommes tous appelés à faire des disciples. Chère Église, je t'invite à te lever, à prendre ton engagement au sérieux en faisant des disciples. Une petite histoire en conclusion, il s'agit de deux agriculteurs qu'on voit dans un film qui s'appelle « Facing the Giant ». En fait, c'est deux personnes qui attendent la pluie. Ils décident de prier. Et le premier, aussitôt après avoir prié, décide d'aller semer, tandis que l'autre attend qu'il pleuve. Dans ce texte, Jésus ne nous demande pas d'attendre. Jésus nous demande de nous mettre à l'action et de nous lever. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds, Seigneur, qui nous éclaire. Merci pour ta parole, Seigneur, qui nous change, qui nous transforme. Merci pour la croix où tu es mort pour nous. Tu es mort pour que nous soyons délivrés de nos péchés, Seigneur. Et tu as débuté une œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, je te prie de nous faire grâce. Tu vois combien nous sommes incapables de faire des disciples. Mais toi, Tu choisis quand même de nous utiliser, nous. Et Père, nous voici. Je te prie de te servir pleinement de nous, de nos expériences, de notre statut, enfin, de nos connaissances bibliques, de tout ce qu'on est, Seigneur, pour donner gloire à ton nom dans notre Église, mais également par rapport aux nations. Nous voulons te suivre, Seigneur. Nous voulons te placer à la première place. Nous voulons te suivre. Glorifie-toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.